Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Notre affaire débute le 30 mai 1959, un samedi qui fleure bon les vacances, un samedi de week-end à la campagne. Comme tous les jours, Monsieur Renard, marchand de chevaux de son état, accompagné de son garçon d'écurie, emprunte la route ronde dans la forêt de Fontainebleau. Lorsque, dans le sous-bois, il aperçoit de petites flammes, alors il s'approche et il tombe sur un cadavre en train de se carboniser. Et maintenant, voilà le commissaire Chomeil, le patron de la première mobile, l'une des brigades du Tigre de Clémenceau. On l'a tiré du lit et il n'en veut à personne, car on lui a dit « la situation, c'est une belle affaire » et il n'a pas l'intention de la laisser aux policiers parisiens du 36 quai des Orfèvres. Ah ça non, il en faut pour tout le monde. Et le voilà qui se penche sur le cadavre et qui fait une grimace. C'est qu'il s'agit d'une femme et que l'odeur d'essence et de chair calcinée mélangée est affreuse. Et maintenant, voilà les journalistes de François. À cela, jamais en retard. Les hommes de l'identité judiciaire, ancêtres des experts, ramassent 3 douilles de pistolet et repèrent la trace d'une voiture qui, sans doute, s'est garée là. On emporte le corps vers la morgue et Chomeil rentre au commissariat. Et comme souvent, il étale sur une table de son service tout ce qu'il a pu collecter sur place. Des bouts de vêtements à moitié brûlés, une chaussure noircie, mais qui sans doute avant était rose, et c'est tout. Ça se présente mal, car pour l'instant, la brûlée de Fontainebleau n'a même pas de nom. Un journaliste parvient à se faufiler dans le bureau. On l'appelle le roi des fouineurs, Maurice Josco de François. Celui-là, vous le sortez par la porte, il rentre par la fenêtre. Il vendrait père et mère pour une bonne histoire. Il s'approche subrepticement de la table et, allez savoir pourquoi, il s'arrête sur les chaussures. Il les prend, il les retourne et on le voit noter la marque sur son calepin. Maison Maïté, Angers. Le lendemain, tombe le rapport du médecin légiste. Jeune femme, entre 16 et 25 ans, corpulence fine, environ 1m60, chevelure longue et brune, atteinte de 5 balles au thorax, à la tête et au foie. La victime vivait encore lorsque l'assassin a mis le feu avec de l'essence. Les faits se sont produits entre 2h et 3h du matin. Une description de la victime est transmise à tous les services de police et de gendarmerie, et aussi à la presse. Manteau bleu ciel, pull bleu ciel lui aussi, jupe large à bandes bleues, noires et blanches, et jupon de marque Valizère. Sans oublier les chaussures, maison Maïté, Angers. Les gars, je veux que quelqu'un se mette sur les chaussures, vous appelez l'usine et vous voyez dans quel magasin ce modèle est vendu. Le premier à avoir noté la marque des chaussures, c'est le reporter de François, Maurice Josco. Et ce faisant, il pense qu'il a un coup d'avance sur la police. À peine rentré à son bureau, il appelle les établissements Maïté à Vézin, dans le Maine-et-Loire. « Ah oui, vous créez de nombreux modèles. Oui, mais celui-là est rose, vous comprenez? C'est pour une amie. » De la chance, l'usine n'a sorti qu'un seul modèle de cette couleur, le modèle Baccara collection printemps 59, des escarpins à talons hauts. Et le modèle est vendu dans 9 magasins en région parisienne. Eh bien c'est parti pour une tournée des boutiques. Malheureusement, dans les 8 premières boutiques, ça ne donne rien. Il ne reste plus que la boutique de Mademoiselle Miller, rue Dupéré, près de la place Pigalle. Et en plein dans le mille. Mais oui, monsieur, oui, j'ai vendu ce modèle-là en taille 40. Et vous vous souvenez à qui? À une jeune femme, je crois qu'elle s'appelle Dominique. En tout cas, elle est du quartier, hein, je l'ai déjà croisée. Josco se dit qu'il a fait du bon boulot. Et en vieux routard, il fait vite l'addition. Chaussures à talons hauts roses plus quartier de Pigalle égale prostituée. Et il va immédiatement fêter ça au Sans Souci, un bar de Pigalle où il a ses habitudes. « Salut Maurice, ça va ?»« Bah ça va, oui. Et t'es là pour Domino ?»«
Oui.
Hey, »« Laisse-moi 2 minutes, je t'affranchis. » La fille aux chaussures roses, c'est une entraîneuse. Elle se fait appeler Dominique ou Domino. Et elle était là vendredi soir, hein. Elle est partie avec un cave, un client. Oui, un type qui joue les durs, il se fait appeler Monsieur Bill. Josco note fébrilement. Bill l'a embarqué dans sa Dauphine noire, le modèle sport, tu sais. Et tu sais où ils sont allés? La Côte d'Azur, sans doute, il a dit, Monsieur Bill t'emmène voir la mer. Bingo, Josco tient son scoop et il se rue au siège de François. Et comme à chaque fois, il va appliquer la méthode Josco. Surtout, ne pas lâcher toutes ses billes d'un coup, sans garder un peu sous le coude pour le lendemain. Dans le papier de ce soir, il va parler des chaussures. Et demain, il balancera le nom de cette Domino et du mystérieux Monsieur Bill. Sauf que Josco, c'est imprudent. Il n'a pas envie de se faire griller chez les flics. Il a trop besoin d'eux. Alors il les appelle pour leur dire ce qu'il a déniché. Et il en prend un coup sur la calebasse. Tout ce qu'il a, les flics l'ont déjà. Ils ont même un coup d'avance. Les poulets sont en train de ratisser Pigalle. Ou pour tout dire, on n'est pas très causant. Du genre, au moins, moi je parle pas la volaille. Hein. La volaille, moi je l'aime dans l'assiette. Hein. Très drôle, à part ça t'aurais pas le nom de la poulette. Ça va mettre un peu de temps, mais 48 heures plus tard, il décroche le vrai nom de Domino. Muguet Tirel, né le 12 septembre 1936, qui habite 66 rue de la Rochefoucauld. Et ils y vont tout de suite. Et la perquisition de son appartement confirme que Domino a bien fini sous les balles d'un tueur dans le bois de Fontainebleau, car dans ses affaires, on retrouve un soutien-gorge du même motif que la culotte retrouvée sur le cadavre. Le commissaire doit se résoudre à prévenir les parents de la jeune fille dans le Morbihan. Domino ressemblait à beaucoup de filles de Pigalle. Elle était entraîneuse. C'est-à-dire qu'elle passait des nuits entières sur le tabouret d'un bar à aguicher le client pour qu'il consomme. En général, si le pigeon avait de l'argent, ça pouvait aller plus loin. Et celle qui faisait ça, en général, avait des macs. Et c'est au chapitre mac qu'apparaît un Monsieur Bill. La veille de sa mort, Domino aurait dîné à l'Amiral avec le fameux Bill. Oh, ils avaient l'air agités, hein, ils se disputaient. Une prostituée raconte qu'elle a parlé avec elle, vers minuit, devant le Sans Souci. Elle m'a dit « J'attends un client sérieux, je vais partir avec lui en bagnole. » À 1h du matin, on l'a vu monter dans une Dauphine rue Fontaine. Mais ce monsieur Bill, à quoi est-ce qu'il ressemble ? On décrit au policier un homme de 25 à 30 ans, taille moyenne, mince, blond, petite moustache et lunettes teintées, qui porte en général un chapeau rabattu sur les yeux et qui conduit une Dauphine noire. Mais son vrai nom, son blaze, c'est quoi son blaze ? Personne ne moufte. Monsieur Bill ? Connais pas. Les rares bavards disent qu'il serait toujours armé et qu'autrefois, il a eu des barres.
Monsieur Bill, ah c'est un banque, oh c'est un cave, il jouait les durs, mais c'était pas un gars du milieu. Son nom? Ah non, ça, je sais pas.
Mais le commissaire Chomeil connaît bien la voyoucratie. Si Bill n'est pas du milieu, le milieu va le balancer. Il y a juste qu'à attendre. Et effectivement, au détour d'un bar, un gars discrètement lâche son nom. À Rapin. Il s'appelle Georges Rapin. Mais moi, j'ai rien dit, hein. Vérification rapide dans les fichiers de la préfecture de police permet de confirmer que Georges Rapin, 23 ans, est le possesseur d'une Dauphine Gordini noire immatriculée 4337 HL 75. Il loge 209 boulevard Saint-Germain à Paris. À sa mazette, c'est pas courant ça. Un Mac qui habite les beaux quartiers et qui roule en voiture de sport. Les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Quand il se gare devant le 209 boulevard Saint-Germain, le commissaire repère tout de suite sur le trottoir d'en face la Dauphine noire, couverte de poussière. Concierge est dans sa loge. « Bonjour madame, est-ce qu'il y a un certain Bill qui habite ici ?»« Ah, le fils Rapin ? Oui, oui, il vient de rentrer de Cogolin, dans le Midi. Il est allé conduire sa grand-mère. C'est au troisième. » C'est une domestique qui entr'ouvre la porte, mais sans enlever la chaîne. « Vous désirez ?»« Police judiciaire, madame. Monsieur Georges Rapin, je vous prie. »« Je vais voir, un instant, s'il vous plaît. » Et voilà donc Rapin, alias Monsieur Bill, qui apparaît dans l'entrebâillement de la porte. Commissaire Chomeil, première brigade mobile, je souhaiterais vous parler. Oui, un instant. La porte se referme pour ôter la chaîne de sécurité. Et Rapin apparaît. Il semble nerveux, il est très pâle. Pourrions-nous visiter votre chambre ? Oui, bien sûr, suivez-moi. Dans la chambre, le commissaire trouve un couteau à cran d'arrêt, un étui de carabine, deux goupillons pour nettoyer des armes et dans les toilettes, tout à côté, 9 balles de calibre 7,65, des munitions de marque FSM et CF, les mêmes que celles qu'on a retrouvées sur la scène de crime. Dans le reste de l'appartement, on trouve aussi deux pistolets 6.35. Ils appartiennent à Monsieur Rapin, père. Rapin fils est emmené pour interrogatoire au siège de la mobile, avec la ferme intention de le cuisiner jusqu'à le faire craquer. L'interrogatoire se joue comme souvent dans un bureau enfumé. Monsieur Bill sur une chaise et les policiers qui se relaient pour lui poser invariablement les mêmes questions. Par exemple, quel est son emploi du temps la nuit du crime ? Monsieur Bill a bien dîné avec Domino à l'Amiral. Et après ? Et après, bah, je l'ai ramené au Sans Souci. Et puis je suis allé me promener dans Paris en voiture. Et encore après, parce que là, tu nous fais lambiner, là. Bah, je l'ai retrouvé vers minuit. Ou peut-être bien 1h du matin. Et elle m'a demandé de l'accompagner en voiture jusqu'à la place Pigalle. Elle devait retrouver un client. Et ensuite, tu l'as revue ? Ben non. J'ai rejoint ma maîtresse, Nadine. Adresse ? Rue de Gergovie. Sauf que sa maîtresse, Nadine, dit que ce soir-là, il portait sur lui un pistolet. C'est pile à ce moment-là, que tombe le rapport du labo. Il a comparé les balles retrouvées chez Bill et les douilles récupérées sur les lieux du crime. Mauvaise pioche. Résultat négatif. C'est pas les mêmes. Et un élément de moins contre lui. Il faudrait vraiment qu'il passe à table, parce qu'à ce rythme-là, il va falloir le relâcher. À 23 ans, le monsieur Bill n'a pas un CV bien long, évidemment. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans son passé qui pourrait mettre les policiers sur une piste ? C'est un fils de très bonne famille, ça on le sait. Un temps, il a essayé de devenir acteur, sans succès. Alors il a travaillé chez Gibert Jeune, la célèbre librairie de Saint-Germain-des-Prés. Ah, anecdote intéressante, il a été renvoyé parce qu'il s'amusait à manipuler une arme dans les rayons. Peu importe, papa lui a acheté sa propre librairie. Faillite. Ensuite, papa lui a acheté un bar, le Bill's Bar, 65 rue Pascal, dans le 13e arrondissement. Mais il l'a vite mis en gérance. Et un deuxième bar, le Porto. Mais en vérité, tenir un bistrot ne l'a jamais intéressé. Bref, pas grand-chose à tirer de ce passé, si ce n'est l'impression déjà acquise que le garçon est un dilettante de première bourre. C'est un témoin qui va changer la donne. Le gérant du Bill's Bar, il débarque au commissariat et il ne vient pas les mains vides. « Monsieur le commissaire, il faut que je vous montre quelque chose. Samedi, Bill est venu au bar et il m'a demandé de garder ceci. » Et Granier, c'est son nom, pose sur le bureau un filet à provisions. Et à l'intérieur, il y a un pistolet et un couteau à cran d'arrêt roulé dans du papier journal. « Vous comprenez, commissaire, j'ai lu les journaux, je veux pas être complice d'un crime. » Le couteau, c'est celui de Domino. Plusieurs témoins en ont déjà parlé. Elle l'avait toujours sur elle en cas de problème avec un client. Eh bien, la voilà la preuve qui manquait. Sachant qu'il sera toujours temps de vérifier que le pistolet est l'arme du crime. Le commissaire Chomeil retourne devant M. Bill et lentement, comme pour préserver le suspense, il pose sur la table le pistolet et le couteau. L'effet est immédiat. Bill s'effondre, il met la tête entre ses mains, il se redresse et il dit « Ok ». Ok, je vais tout vous dire. Georges Rapin va mettre beaucoup de temps à se déballonner. Il va parler pendant des heures, et plus tard d'ailleurs, le commissaire dira qu'il a déballé ses aveux avec calme, intelligence et lucidité. Si j'ai tué Dominique, c'est parce qu'elle m'avait menti. J'avais proposé à son souteneur, un certain Stello, de la racheter. Et ce gars-là, ben je lui ai donné 500 000 francs pour qu'il la lâche. Sauf qu'elle, pour me rembourser, fallait qu'elle turbine. Et elle, elle voulait juste s'amuser. C'est donc pour ça qu'ils se sont disputés à 1h du matin, au Sans Souci. Et c'est là qu'il lui a dit « Dis donc, t'as déjà vu la mer ? T'as jamais vu la mer ? Allez, viens, viens, Monsieur Bill t'emmène, on va voir la mer. » Et vous aviez prévu de la tuer ? Bien sûr que j'avais prévu de la tuer. On ne se moque pas de moi impunément. Et il raconte comment, arrivé au lieu dit la ronde, il a fait descendre Domino, comment elle l'a menacé de le dénoncer à la police comme macro et comment elle a sorti son couteau. Et c'est là que j'ai sorti mon feu. Elle s'est mise à courir, j'ai tiré. Elle est tombée. Et il raconte qu'après, il a passé une paire d'espadrilles pour ne pas laisser de traces et qu'il a versé sur elle le contenu d'un bidon d'essence. À ce moment-là, elle s'est redressée. Elle n'était pas morte. Alors je lui ai collé un coup de poing et puis j'ai tiré 3 balles. Et là, elle bougeait plus. Ensuite, j'ai vidé 2 autres bidons. J'ai jeté un journal enflammé. Ça a pris tout de suite. Voilà, et puis après, je suis rentré à Paris. J'ai jeté les espadrilles, mes gants, les bidons vides. Et j'ai rejoint Nadine et je lui ai demandé de me fournir un alibi. Monsieur Bill ajoute, comme un caïd qu'il n'est pas. « De toute façon, je préfère être le boucher que le mouton. » Le commissaire voulait des aveux. Il les a. Sauf qu'à un moment, il voit Bill tendre subrepticement sa main vers la sacoche dans laquelle il a placé son arme de service. « Oh là ! Hé, tu espérais quoi ? » tenter ma chance. D'ailleurs, hier matin, quand vous êtes venu chez moi, j'ai pensé à vous fumer à travers la porte. Et quand il quitte le commissariat sous les éclairs des photographes, il leur lance « Merci messieurs, c'est le plus beau jour de ma vie !» Et c'est ainsi que va naître la légende du beau Bill. Parce qu'il faut dire qu'il a tout pour plaire, avec ses lunettes noires, sa coupe de cheveux en arrière, son costume sur mesure, ses gants en pécari et ses airs ténébreux. C'est pour ça que les reporters vont aller fouiller son histoire et qu'ils vont découvrir qu'il était un enfant gâté pourri. Sa mère l'appelait Pimpin et elle lui passait tout. Enfant, les gangsters le fascinaient. Il dévorait la série noire et plus jeune à Pigalle, il prétendait être corse et imitait l'accent. Tout ça, c'est de l'or pour la presse, qui se régale. Et lui, en prison, il entretient le mythe. Un jour, il écrit un petit mot au patron de la mobile. Sans aucune rancune au commissaire Chomeil pour sa belle réussite dans l'enquête. Et c'est signé Georges Rapin, alias Bill. Le mythe encore, quand un jour, il dit au juge « Vous m'êtes sympathique, monsieur le juge, à ça vous m'êtes sympathique, je vais vous faire une fleur. » Et là, il avoue un second crime, un pompiste qui lui avait manqué de respect et qui l'a froidement abattu. On vérifie, c'est vrai, un certain Roger Adam a été abattu à Villejuif, dans une station-service. Mais pourquoi ? Ben, il a appris qu'on ne me manquait pas de respect. Et vous savez ce que lui avait dit le pompiste pour mériter la mort ? Petit con. Rien de plus que petit con. Dans les semaines qui suivent, Georges Rapin, alias Monsieur Bill, va avouer 11 autres meurtres. Des Arabes à Pigalle, pour le compte de Corse, qui voulaient éliminer la concurrence. Ce qui lui vaudra ce titre dans Détective à la Une, les 13 crimes de Monsieur Bill. Pour son procès qui approche, sa chère maman, qui n'a jamais rien refusé à son Pimpin, embauche carrément Maître Floriot, le ténor du barreau de l'époque, l'avocat du docteur Petiot. Le juge n'arrivera jamais à vérifier la réalité des 11 meurtres de Pigalle et finira par penser qu'il n'a pas commis ces meurtres. Et le procès s'ouvre en mars 1960. Et là, coup de théâtre. Dès le début du procès, il revient sur ses aveux. Il n'a tué personne. Et d'ailleurs, il est métamorphosé. Le matamor, le flambeur, le mythomane a laissé place à un homme humble et poli. Georges Rapin a en quelque sorte décidé de commettre un ultime meurtre. Il exécute en public son double maléfique, Monsieur Bill. Vous n'avez pas tué Domino ? Non. Mais alors qui l'a tué ? Bah, c'est un proxénète, un certain Robert. Il l'a tué sous mes yeux et il m'a demandé de le couvrir le temps qu'il puisse se mettre au vert. Rien de tout cela n'est crédible et ses explications sont assez pitoyables. Et ce faisant, il n'aide pas beaucoup son avocat. Maître Floriot, qui va batailler en pure perte pour sauver la tête de son client. L'avocat général demande la peine de mort et il ne faut qu'une demi-heure aux jurés pour rendre leur verdict. Ce sera la guillotine. Rendez-vous compte, en 1960, on expédiait quelqu'un sous la guillotine en une demi-heure. Son avocat, dans son dos, demande au général de Gaulle une grâce présidentielle. La légende dit que Rapin a écrit lui-même au général en lui demandant de ne pas lui accorder la grâce. Il ne veut pas pourrir en prison, il veut une mort digne. Alors le 26 juillet 1960, dans le quartier des condamnés à mort de la prison de la Santé, on le réveille vers 3h50. « Georges Rapin, soyez courageux, c'est l'heure. » Il fait sa toilette, il écrit une lettre à ses parents, il boit avec gourmandise le verre de rhum du condamné, il signe sa levée d'écrou, il monte à la guillotine sans flancher, sans crier, sans pleurer. À 4h05, sa tête tranchée tombe dans le panier.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.